Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.
Radio Campus Orléans 88.3. Aujourd'hui, mercredi 2 novembre, je suis à la Maison des Associations à Orléans où se tient une exposition mise en place depuis le lundi 31 octobre jusqu'au 5 novembre, une exposition intitulée « Résister à la propagande de guerre, 10 principes élémentaires ». Et je suis donc en compagnie avec Vivienne Bichet. Vivienne Bichet est présidente du mouvement de la paix Orléans-Loiret et elle est accompagnée de Claudine Amary, secrétaire et co-secrétaire au niveau national de l'association du mouvement de la paix qui compte environ 100 comités en France. Bonjour mesdames.
Bonjour monsieur.
Cette exposition se trouve ici à Orléans pour une durée d'une semaine environ. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'histoire préalable à la mise en place de cette exposition ici à la Maison des Associations ? Comment cela s'est mis en place ?
C'est-à-dire quand c'est mis,
Pourquoi est-ce que le mouvement de la paix justement propose cette exposition ?
Parce qu'on a eu l'opportunité d'avoir cette exposition gratuite au niveau national en France. Madame Morelli donc a même créé cette exposition en Belgique à partir de son livre qui est Principes élémentaires de propagande de guerre utilisables en cas de guerre froide, chaude ou tiède. Et à la suite de ce livre, ils se sont mis en espèce de collectif avec d'autres professeurs et ils ont créé cette exposition et ils l'ont prêtée au mouvement de la paix en France. Et de là, elle tourne à travers tous les comités qui ont la possibilité de la recevoir. Et nous, on a trouvé ça extrêmement bienvenu dans le sens où, au mois de novembre, le 18, 19, 20 novembre, on fait notre congrès national. Et on s'était dit que ça serait intéressant que les comités, c'est intéressant pour tous les comités, mais pour les comités de la région, accueillent cette exposition et finissent par se retrouver surtout au moment du congrès en fait. En plus, elle est. Vous m'aviez dit à un moment donné que cette exposition était un peu en marge de ce qui se faisait actuellement. C'était quelque chose qu'on ne voyait pas. Effectivement, vous avez raison, mais elle est aussi. On est en plein dans le sujet, en fait, avec ce qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie. C'est une exposition qui permet d'aborder un sujet peu abordé, qui est la question de l'opinion publique et de son attitude à l'égard de la guerre, ou celle des arguments emportant son adhésion, enfin l'adhésion à la guerre. Comment on fait pour mobiliser la population ? On a besoin du soutien. Enfin, les États, les nations ont besoin du soutien d'une population pour justifier effectivement leur déclaration de guerre, quoi, en fait. Alors, cette exposition n'est pas là pour dire qui est de bonne foi, qui ne l'est pas, est-ce que le propos est juste ou pas juste. Elle est là juste pour montrer qu'en fait, il existe. Elle est là pour décrire en fait les ressorts, les processus sur lesquels s'appuie la propagande et sur la base d'événements réels ou pas d'ailleurs. On sait que... ce que je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de départager le vrai du faux ou de savoir qui dit la vérité, qui est de bonne foi ou ne l'est pas. Et en fait, ce sont des propos, des processus qui sont unanimement partagés par les différents les protagonistes, l'agresseur comme l'agressé, et ces principes de propagande qui, on va les retrouver, alors elle a commencé à partir de la guerre de 14-18. Mmh. Et bien entendu que ce n'est pas au moment de la guerre 14-18 que la propagande a existé. Elle existait bien avant, mais elle a commencé sa démonstration à partir de là. Et en fait, on se rend compte que ces différents processus, façon de dire, façon de faire, se retrouvent tout au long de l'histoire et jusqu'à maintenant, actuellement. Quoi,
aujourd'hui fait. Encore dans l'histoire voilà. Contemporaine. Alors, une petite précision pour nos auditeurs auditrices. Anne Morelli est historienne et professeure à l'Université libre de Bruxelles. On peut voir en bas sur donc, les différents panneaux d'exposition le nom d'une association que vous pouvez peut-être me présenter. L'association qui a mis à disposition, qui a mis en place, qui a créé cette exposition.
Ah, c'est le mouvement de la paix. Non, c'est
pas avec un nom anglais.
Anglais. Ah bon. Ah
c'est War Institute. Non, c'est pas. Ah, oui, je me souviens pas, mais ce que je peux vous dire, moi, pour préciser, parce que le nom de.
Allez-y, oui, Claudine Amari.
Oui, en fait, cette exposition, bon, bien sûr, c'est à partir du livre d'Anne Morelli, mais il faut savoir que déjà, je préciserai qu'Anne Morelli, moi, je l'avais écoutée, elle est venue au mouvement de la paix il y a quelques années pour faire une conférence. Et victime de son succès, on lui a commandé des livres. Et d'ailleurs, elle en est à sa troisième ou quatrième réédition en France. Elle-même disait qu'elle ne pensait pas qu'il y aurait autant de succès. Mais c'est vrai que ça correspond beaucoup à notre réflexion. Et en fait, elle ne l'a pas fait toute seule. C'est une scientifique. Hein, donc avec d'autres scientifiques, ils ont monté cette exposition ensemble. Et au départ, je crois qu'elle avait écrit ce livre pour ses étudiants. Pour parler de la période, notamment 14-18, mais aussi pour réfléchir à partir de là. Parce qu'elle disait que, en fait... c'est à partir de cette époque-là, de la guerre 14-18, que vraiment se sont développées des officines, de ce qu'on appellerait, pour diffuser ce qu'on appellerait aujourd'hui des fake news, hein, c'était l'antécédent des fake news, pour justement, et c'était vraiment des instituts, des officines qui étaient payés bien sûr par les gouvernements pour réfléchir à, comme disait Viviane tout à l'heure, comment faire entrer dans l'esprit des gens que la guerre est inéluctable, que voilà, puis plus tout un tas de principes après dans la propagande qui sont développés. Mais donc cette exposition, alors ils l'ont montée en Belgique, hein, ce sont des Belges, et comme on avait gardé contact avec elle, puisque de toute façon ces livres ont bien circulé en France, elle a proposé de nous la prêter, enfin ils ont proposé de nous la prêter pendant un an, ça va peut-être même se prolonger un peu d'après ce que j'ai entendu, en France. Donc elle tourne, et c'est vrai, tu disais Viviane, notre congrès qui a lieu dans quelques jours maintenant, hein, 18, 19 et 20 novembre à Tours, l'exposition arrivera à Tours au moment du congrès, puisque juste une aparté pour ce congrès, le vendredi après-midi, il y aura un forum international où on aura des interventions d'invités étrangers, dont par exemple, il y aura un Ukrainien et un Russe, bon, qu'on aura par visioconférence, parce que mais d'autres qui seront présents physiquement, d'autres en faisant des vidéos 3 minutes avant, enfin voilà. Et ce forum est ouvert au public, donc à Tours, à l'hôtel de ville, le vendredi 18 après-midi. Puis après, il y a notre congrès sur 2 jours, voilà.
Ouais. Alors, le mouvement de la paix s'intéresse bien évidemment à la paix. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire de cette association?
Le mouvement de la paix est né après la Seconde Guerre mondiale, on dit environ en 1948. En fait, pour dire plus jamais ça, c'est-à-dire plus jamais le fascisme et plus jamais la bombe nucléaire, hein, qui est sur Hiroshima et Nagasaki. Elle a été créée par des résistants de la Seconde Guerre mondiale et aussi par différents courants, aussi bien courants communistes comme les chrétiens de gauche, comme d'autres personnes d'ailleurs ne partageant pas forcément, n'étant pas forcément dans ces deux premiers courants, beaucoup d'artistes aussi, scientifiques. Et donc, à un moment donné, ils ont créé ce mouvement de la paix. C'est une association 1901 à but non lucratif. On compte environ 150 comités à travers la France. Il y en a qui se créent toujours, d'autres qui disparaissent, mais voilà. C'est une organisation pacifiste et qui s'inscrit dans la promotion de la culture de la paix lancée par l'ONU et l'UNESCO. Mmh. Hein, et qui a été proclamée en 2020, l'année internationale de la culture de la paix. C'est-à-dire qu'en plus des différents objectifs qu'avait le mouvement de la paix au début, c'est-à-dire désarmement, mais en particulier aussi l'arme nucléaire, il y avait aussi arrêt de la production et d'armement. Hein, on est contre l'armement, et puis réduction des budgets militaires. À partir des années 2000, on s'est orienté aussi sur une culture de la paix et de la non-violence, parce que ça nous semblait important d'éduquer, on va dire, hein, mmh. hein, d'éduquer les jeunes gens, quoi, en fait. Mmh. Voilà.
Juste pour compléter, en fait... C'est vrai que bon, le mouvement de la paix a évolué au fil des années. Et bon, c'est bien joli d'être contre la guerre, mais il ne faut pas seulement être contre la guerre, il faut aussi prévenir les conflits, comment faire en sorte qu'on installe la paix. Et c'est pas seulement réagir à des agressions, des guerres. Donc, en fait, on s'inspire de textes internationaux, dont il y a la charte de l'ONU en 1945, qui a vraiment des textes fondateurs. Il y a bien sûr le texte sur la culture de paix qui a été... C'est une notion qui a été réfléchie, discutée, notamment par l'UNESCO. Ça a été écrit par l'UNESCO, les principes de la culture de paix en 1999-2000. Oui, oui. Et effectivement, en 2001, après, il y a eu instauré la Journée internationale de la paix, qui est tous les 21 septembre. Voilà. Donc c'est un moment fort pour nous, mouvement de la paix, le 21 septembre, avec beaucoup d'autres partenaires. Hein. Il n'y a pas que le mouvement de la paix, on travaille de plus en plus avec une association avec d'autres partenaires. Et puis, donc c'est un moment important. On s'inspire aussi des objectifs de développement durable, qui sont...
De la paix, en fait.
De toute façon, c'est à partir des années 2000, en fait, que tout ça, ça s'est développé. Voilà. On s'inspire aussi, alors, on est, depuis quelques années, on est très impliqués dans la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà. Donc, on participe aux actions avec d'autres, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est vraiment un axe, je dirais, qui est devenu un des axes prioritaires, la lutte contre l'armement nucléaire, la défense d'un, la promotion d'un traité qui a été signé en 2017 et ratifié l'an dernier, en janvier 2021, et auquel la France n'a pas voulu signer, comme toutes les puissances nucléaires, et n'ont même pas participé au débat à l'ONU concernant ce traité. Mmh. Donc, pour vous dire en gros, quand on s'inspire sur des textes internationaux, l'idée de la paix, ça tombe pas comme ça du ciel. Mmh. Et dans le respect du droit international, qui bien sûr est très très peu respecté dans le monde. Donc nous, on s'appuie là-dessus, quoi. Voilà. Mmh.
Oui. Alors, cette exposition, c'est une bonne porte d'entrée justement pour découvrir votre association et tout ce qu'elle promeut en faveur de la paix entre les humains et les peuples. Alors je rappelle que l'intitulé c'est « Résister à la propagande de guerre, 10 principes élémentaires ». Au-delà de l'exposition où on apprend beaucoup de choses, hein, justement sur les mécanismes en fait qu'utilisent les hommes politiques, enfin les présidents ou les belligérants, en tout cas celles et ceux qui veulent faire la guerre, les leviers qu'ils vont actionner pour pouvoir susciter l'adhésion du peuple et se sentir légitime, enfin, et prétendre à une légitimité pour affronter un autre pays. Alors il y a une question qui va se poser forcément, c'est que donc il y a un pays qui déclare la guerre et puis l'autre qui l'a subi. Alors qu'est-ce qu'on fait face à l'envahisseur ? Enfin, ça suscite pas mal de réflexions. On n'est pas habitué en tant que citoyen lambda d'avoir cette culture de la paix. Et puis après on va réfléchir aussi, on peut penser à toute cette économie de la guerre, comment justement l'économie de la guerre permet de soutenir les personnes au pouvoir, parce qu'elles ont des armes, à un moment il faut bien s'en servir, hein, ou en tout cas menacer de s'en servir. on pense à la dissuasion nucléaire. Et puis, alors c'est vrai qu'on ne voit pas forcément le rapport au début en parlant de la guerre, mais c'est vrai que la guerre contribue au réchauffement climatique de manière indirecte, ou en tout cas sera l'une des conséquences du réchauffement climatique. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer comment s'articule ce lien que vous mettez en avant depuis quelques années maintenant entre justement la lutte contre le réchauffement climatique et la promotion de la paix?
Alors on imagine tout de suite les conflits ou les guerres. Et effectivement, les conflits et les guerres très directement vont complètement chambouler le paysage, l'environnement, que ce soit ses sols et sous-sols. D'ailleurs, au début septembre, début octobre, nous avons eu une conférence faite par Monsieur Hubé, qui est ingénieur au BRGM et spécialiste des sols et sous-sols, et qui nous a démontré avec quelle puissance les échanges de tirs, si je puis dire, ont complètement chamboulé l'environnement, le paysage, à tel point que la roche est complètement modifiée, comme si elle avait subi des catastrophes naturelles du genre volcanique et des choses comme ça, quoi, en fait. C'est excellent. Et avec des terres qui sont toujours empoisonnées, quoi, en fait, où il y a des no man's land, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien cultiver. Encore actuellement, on peut encore interdire certains, dans l'est de la France notamment, interdire certains endroits parce qu'ils sont complètement pollués, il y a des éléments chimiques qui remontent en fait. Et alors ça, c'est pendant la guerre, il y a eu au Vietnam aussi, le fameux agent orange, hein, qui dépolluait complètement les forêts. Mais il y a aussi, on dit nous, qu'il y a aussi avant et après, c'est-à-dire avant, il faut savoir, ce que tu disais Claudine, que l'armée était le premier propriétaire terrien en France. Ouais, voilà. Et donc, il y a tous ces essais, en fait, et tous ces dépôts aussi, et puis tous ces véhicules qui utilisent de quoi rouler, quoi, en fait. Il y a tous les transports aériens aussi. La logistique, en fait, la logistique, les entraînements. Et puis après, c'est aussi toute une logistique pour se débarrasser de tous les polluants, de tous les déchets, missiles, etc. Il y a aussi tout ce qui est lié à l'air. Voilà, il semblerait qu'il y a des chercheurs qui font des recherches pour effectivement voir comment on peut toucher au plus près les guerres dites chirurgicales, au plus près l'ennemi, quoi, en fait, sans soi-disant, toucher la population. En fait, les populations sont toujours amenées à être, à un moment donné, touchées, quoi, en fait.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous parlez, par exemple, on entend souvent parler de frappe chirurgicale. Oui. On a presque l'impression qu'il s'agit d'une opération en faveur du patient, en fait, qui va justement bénéficier d'une technique, l'occurrence médicale, pour pouvoir être soigné. Il y a aussi ce discours qu'on retrouve dans l'exposition, où la personne qui va déclarer la guerre va prétendre le faire au nom de la paix. On est quand même dans un mensonge qui fonctionne très bien aujourd'hui. Hein. C'est ce qui surprend dans cette exposition, c'est qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de culture de paix. On vit dans un monde quand même où il y a... Alors déjà, il y a l'histoire qui raconte... D'ailleurs, c'est inhérent, j'allais dire, c'est indissociable de l'histoire de l'humanité. L'humanité n'a évolué qu'avec toujours des guerres en fond dans son histoire. Et peu de promotion de la paix, exactement. Peu de mouvements culturels, à part peut-être justement dans certains domaines tels que la philosophie, on peut penser aussi à toute la spiritualité ou encore la religion, mais ça restait quelque chose de l'ordre spirituel, mais pas forcément éducatif. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit aussi que même dans les écoles, c'est un peu comme ça aussi en France d'ailleurs que s'est mis en place l'instruction publique, il fallait que les garçons soient capables de lire un avis de mobilisation voilà, en cas de déclaration de guerre. Les jeunes hommes avant 14 aussi apprenaient à se servir des fusils, ça faisait partie de leur éducation. Donc les enfants et les jeunes, les garçons en particulier, qui sont victimes de ce système, les femmes également, hein, puisqu'elles en subissent les conséquences, ont tous bénéficié d'une éducation, alors je dis bénéficier parce qu'il y en a qui en ont fait leur métier, en faveur de la guerre. Et donc on est quand même, c'est pour ça qu'elle surprend assez votre exposition et l'objet de votre association aussi, ce n'est pas quelque chose à la mode, la paix. Alors comment vous l'expliqueriez-vous au mouvement de la paix, quelles sont les valeurs qui vous animent pour promouvoir la paix?
Alors, bon, déjà, nous on a tendance à dire qu'on est dans une culture de guerre. Ça complète un peu ce que vous disiez. On n'est pas dans une culture de paix, on est dans une culture de guerre. D'ailleurs, même dans les mots, mais ce n'est pas anodin à regarder par rapport au Covid, notre président n'arrêtait pas de dire « nous sommes en guerre ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas en guerre contre un virus.
Et je peux même rajouter, dernièrement, la semaine dernière, il a rajouté à propos des budgets qu'il allait dégager pour les incendies, pour lutter contre les incendies, il a dit « nous sommes en guerre ». Au moins contre les incendies, mais contre cette situation, quoi, en fait. Et
souvent, les hommes d'État, et je dis bien les hommes, pas en tant qu'humain, mais je parle du genre, hein, vont justement se servir de la guerre pour asseoir leur pouvoir. Enfin,
Et d'ailleurs, Anne Morelli, quand elle parlait de la propagande qui se faisait par des officines, mais relayée bien sûr par les gouvernements, elle a dit, mais en fait, c'est comme un produit, ils vendent un produit, et la guerre, c'est comme si c'était un produit qu'il fallait vendre, donc comme on ferait une démarche commerciale auprès des gens, il faut leur mettre dans la tête qu'il faut acheter, enfin, entre guillemets. Et puis, pourquoi? Parce qu'il y a les armes, vous en parliez, il y a des armes derrière. Donc, toutes les industriels, tout l'armement qu'il y a derrière, ça rapporte. Mmh. Donc, c'est ça l'enjeu. Il y a moins de questions de territoire que d'enjeux. Les enjeux, ils sont autres. Ils sont surtout économiques, surtout politiques. Effectivement, il y a le pouvoir, vous parliez du pouvoir. Mais on fait avaler ça aux gens, en fait. Et dans notre région, vous voyez, on est bien placé au niveau de l'armement, puisqu'on a plusieurs usines. Hein, il y en a à Bourges, il y en a à Vierzon. L'affaire chez Saint-Aubin, Thalès, Nexter, MBDA à Bourges. On est bien pourvu en industrie d'armement. Et il y a environ un mois, il y a eu un colloque à Paris organisé par le Mouvement de la Paix et la CGT, mais avec des invités d'autres syndicats, sur économie de paix, économie de guerre. En fait, parce que je vois dans la région, moi j'étais allée dans la région de Bourges, quand on discute avec les gens, c'est leur emploi qui est en jeu. Ils disent oui, mais nous, on a besoin de travailler, c'est notre emploi. Et il n'est pas question, bien sûr, de faire disparaître magiquement. Mais il faut travailler, et il y a des gens qui réfléchissent comment reconvertir ces industries d'armement. D'ailleurs, ça se fait, parce qu'il y avait un exemple, je ne sais plus où c'était, c'est Thalès qui voulait développer un aspect, c'était au niveau de l'armement, et les syndicats se sont battus, mais ça a duré 10 ans, au moins 10 ans, une bataille de longue haleine, pour les inciter à reconvertir dans le domaine médical. Et ça s'est fait.
Donc, oui, alors parce qu'on pense aussi à cette entreprise française dont je ne me rappelle plus le nom, située dans la Sarthe, qui faisait des mines antipersonnel, qui avait suscité l'émoi dans la population publique, on pouvait faire des montagnes de chaussures pour protester et marquer son indignation. Et ils se sont reconvertis donc dans la sécurité, notamment dans toutes les armes de répression policière. Mais à ne pas écarter non plus de cette guerre contre le peuple aussi, hein, de guerre civile ou pas. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, donc vous parliez déjà la guerre qui va permettre à un homme d'État d'asseoir son pouvoir et de gagner en notoriété parce que voilà, il a trouvé un ennemi et donc quelque chose, un but, un objectif à son peuple, un ennemi à combattre. Ça permet de fédérer aussi, hein. Et puis, dans un deuxième temps aussi, ça va lui permettre de développer une économie. Alors, on l'a vu récemment avec Emmanuel Macron, qui veut justement mettre plusieurs grands dirigeants autour de la table pour étudier comment soutenir économiquement l'Ukraine, mais d'un point de vue militaire, durant les mois d'hiver à venir. Oui. Alors là, encore, on a l'impression que grâce à lui, on va s'occuper des Ukrainiens qui vont avoir froid parce qu'il y a l'hiver qui arrive. Oui. La guerre, elle est aussi affreuse, enfin, quelle que soit la saison. Hein. Mais on voit bien les mécanismes justement de cette culture de guerre véhiculée par les chefs d'État. On a parlé de l'économie de guerre, on a parlé de l'aspect politique. C'est pour ça d'ailleurs que Poutine est si peu inquiété, hein, parce qu'il a le soutien d'une grande partie de son peuple. Ça lui permet d'avoir une notoriété internationale, une politique internationale qu'il avait déjà commencé. On pense au Cameroun par exemple, en Afrique, mais même au Mali aussi, avec la culture du mercenariat, et ça le rend étrangement populaire auprès des populations qui, quand même, alors c'est là où ça devient incompréhensible, parce qu'aucune population ne souhaite la guerre, mais par contre aucune population ne conteste les chefs d'État. Enfin, on peut le voir avec Emmanuel Macron en France, il n'y a personne qui lui a dit stop, enfin si, au Mali c'est vrai qu'il a fini par en partir, mais arrêter de soutenir ouvertement comme ça l'Ukraine, ça nous fait un peu peur. On pourrait même penser que Poutine pourrait nous en vouloir. Et puis, vous ne faites pas ça pour arrêter la guerre ou promouvoir la paix, puisque la France vend des armes à la fois à l'Ukraine, mais aussi à la Russie quand même.
Hein. Ça peut se retourner en plus contre nous, quoi, en fait. Mais là, effectivement, d'ailleurs, dans l'exposition, vous avez quelques panneaux qui mettent en évidence, effectivement, la question de celles et ceux qui se sont dressés contre la guerre, hein, mettant en évidence donc la difficulté de développer des contre-arguments à cette propagande, on va dire, institutionnalisée, quoi, en fait, un peu d'État, quoi, en fait. Et puis qu'en plus, le fait de manifester sa désapprobation ou enfin son désaccord, hein, ça peut, comment dire, entraîner des... Ah ben on peut en mourir, et puis notamment aussi de refuser d'aller
la désertion, l'objection de conscience.
Voilà, c'est contesté quand même. C'est effectivement des situations qui ne sont pas simples. Et pourquoi aussi, peut-être, je dirais que c'est des enjeux, comment dire, internationaux, et on sait aussi, notamment lié à l'OTAN, des problèmes, et on sait que depuis plusieurs mois, il y a des grandes manœuvres de l'OTAN qui s'installer aussi au niveau de la frontière pas loin de la Russie, pas loin de l'Ukraine, etc. Et effectivement, ça a été pris par Poutine comme quelque chose d'insupportable, une provocation. Bon, bah, le problème, c'est comment on fait pour ne pas avoir une réaction vis-à-vis de cette provocation. Et en fait, il aurait fallu arriver à faire de la diplomatie avant pour permettre de trouver un moyen de faire en sorte qu'il n'y ait pas la guerre, quoi, en fait.
Je vais rebondir sur le titre de votre exposition, Résister à la propagande de guerre, dit principe élémentaire, qui a été donc réalisé à la suite de l'ouvrage de Anne Morelli. Résister, dit principe élémentaire de propagande de guerre utilisable en temps de guerre froide, chaude et tiède. Parce que la guerre, au-delà d'être d'avoir un théâtre d'opération, hein, de se faire sur le terrain, alors on peut penser historiquement à la guerre froide, l'Afghanistan, Cuba, etc., elle est surtout devenue économique. Par exemple, les sanctions qui sont présentées aujourd'hui contre la Russie ne sont pas des sanctions de tirs de missiles, de roquettes, etc., faites par l'ONU ou l'OTAN ou je ne sais qui. Non, à chaque fois, c'est de la répression économique.
Oui, effectivement.
Donc la guerre, elle est non seulement militaire, mais est-ce qu'elle n'est pas avant tout, avant d'être militaire, ou alors c'est que c'est indissociable l'un de l'autre, économique?
Je pense qu'elle est indissociable. Hein. Mmh. Je pense qu'elle est même, dans certains endroits, elle peut être plus économique. Elle peut être aussi... ils peuvent jouer aussi tout le côté informatique, enfin, oui, Internet, oui, etc. Oui. Et puis, du coup, il y a aussi par ce biais, comme disait Claudine, tout plein de fake news, en fait. Mm. Et ça finit par saper aussi le moral des uns et des autres. En fait, les principes qu'on voyait en 14-18, elles sont toujours d'actualité là maintenant, mais avec effectivement des moyens plus modernes et peut-être encore un peu plus compliqués à contrecarrer, quoi, en fait, parce que c'est pas toujours évident de suivre les choses sur les réseaux sociaux ou entre autres, je pense.
Je sais plus qui a dit ça, parce que c'est Anne Morelli le reprenait déjà dans son interview. En fait, la guerre, ce sont des gens qui ne se connaissent pas qui vont se battre, au profit de gens qui se connaissent très bien mais ne vont pas se battre. Mmh. Et c'est vrai que... À rechercher. Et en fait, c'est ça, parce que les gens qui ont des intérêts à vendre de l'armement, eux, ils restent au chaud. Enfin, c'est...
Oui, c'est déjà...
Et la manipulation, elle est... pour 14-18, il y a eu des pacifistes, il y a eu des gens qui se sont élevés contre la guerre. Et puis la propagande a tellement été bien faite que les mêmes personnes, ça peut être des syndicats, des philosophes, sont arrivés à rejoindre l'Union sacrée, c'est-à-dire à être en contradiction avec les idées qu'ils défendaient peu de temps auparavant, pour dire que c'est quand même fort, quoi, c'est quelque chose. Mmh. Et le bienfait de cette exposition, justement... Et puis nous, c'est un peu le moment de la paix, notre raison d'être aussi, c'est ne pas rester dans l'émotion. L'émotion, bien sûr, elle est là, tout le monde peut ressentir des émotions, mais décoder, analyser, moi je sais que j'apprends beaucoup depuis que je suis au mouvement de la paix, prendre du recul, et puis, mais attention, une guerre, ça tombe pas du ciel, qu'est-ce qui a fait ? Et en fait, évidemment, il y a quelqu'un, celui qui la déclenche, en fait, je cite toujours Anne Morelli, en fait, celui qui la déclenche n'est pas forcément... Bon, il est responsable, mais il n'est pas le seul responsable. Il faut aussi savoir ce qui a fait... qu'est-ce qui a fait auparavant, qu'est-ce qui s'est passé, mais ça peut être des années antérieures, bien avant, qui a fait que ça arrive. Et effectivement, il y a un déclencheur, mais ne pas seulement... tirer un coup de boulet rouge sur celui qui a déclenché la guerre, mais aussi voir ce qui s'est passé autour. Mmh. Et d'ailleurs, pour l'Ukraine, peu de gens peut-être le savent, mais on en parle un peu, mais la guerre, elle a pas commencé le 24 février.
Ah non, bien sûr.
En 2014, il faut savoir que 8 ans auparavant, les Ukrainiens se battaient déjà avec des armes qu'on leur fournissait, que les États-Unis notamment leur ont fournies. Mais nous, on est quand même troisième dans le commerce des armes, on est troisième pays. Donc voilà comment on arrive à vendre des armes et comment ça circule. Donc ça faisait au moins depuis 8 ans que les Ukrainiens, notamment, utilisaient les armes contre leur aussi l'Ukraine, enfin le Donbass, etc. Il y avait une guerre, je ne sais pas si on peut dire guerre civile, mais il faut savoir qu'il s'est passé des choses bien avant et qui, explique peut-être pas tout, mais il y a sûrement une part de... des raisons qui font que on en est là aujourd'hui.
Et pour parler, disiez, est-ce que c'est une guerre aussi économique? Évidemment que c'est une guerre économique, puisque de toute façon, on va vendre des armes. Le truc, c'est quand même vendre des armes, même en tant que paix. Et d'ailleurs, on est extrêmement content quand la France a vendu un ou deux Mirage, etc. Comme si c'était que ce marché-là qui finalement tirait la France vers le haut, quoi, en fait. Et puis, c'est toujours un peu ça dans la tête. Vous, tout à l'heure, quand vous faisiez un peu l'exposé de la culture de guerre, un peu égale culture, enfin d'hommes, quoi, en fait. Combien de fois, moi, quand j'étais plus jeune, on me disait, ah, oh, ben, bon sang, quand on voyait ces jeunes insouciants, bon sang, une bonne guerre, ça ferait une bonne guerre là-dedans, ça ferait du bien. Je sais que ça me révoltait. Et je me disais, mais purée, comment peut-on dire ça avec des gens qui ont vécu la guerre et qui l'ont subi en tant qu'enfant ou en tant que personne adulte et tout, et imaginez. Et là, en disant ça, ils sont prêts à revivre cet état de choses, à faire revivre leurs enfants, leurs petits-enfants, ce genre de choses, parce que dans l'idée, une bonne guerre, vous comprenez, ça va remettre les choses à plat. Et puis, ça va refaire partir l'économie. Il y a de ça aussi ce que vous disiez dans votre...
Avec le plan Marshall, le plan de reconstruction, voilà. Qu'on a vu en Irak également.
De penser que le progrès n'arrive que par, par clash, quoi, en fait.
Par destruction.
Voilà. Alors que... Peut-être qu'il y a effectivement, mais il y a eu plein de choses, plein de progrès qui sont arrivés, plein de connaissances, qui ont abouti en dehors de guerre, quoi, en fait, en dehors. Et ça, on oublie. C'est un peu comme on a oublié qu'il y avait des femmes écrivains ou des femmes philosophes. Quand on veut pas voir certaines choses, on les cache ou on en parle peu. D'ailleurs, on peut dire que, par exemple, le viol est une arme de guerre, une arme même massive, on peut dire, de guerre. Mais voilà. Mais ça fait partie de la guerre, quoi, en fait.
Pour conclure, concernant la lutte contre le réchauffement climatique, c'est là qu'on comprend pourquoi, justement, vous y associez, dans la mesure où il va falloir de l'entente, de la coopération, de la solidarité, de l'entraide, de la bienveillance, de la compassion, de l'empathie, et surtout du courage pour travailler ensemble devant ce chantier qui nous attend les uns les unes les autres. D'où ce besoin de paix, parce que c'est là où on comprend comment justement la guerre a trop longtemps contribué. On peut penser donc à la guerre économique dont on parlait, hein, qui a donc la colonisation, mais la colonisation non seulement des humains, mais aussi des sols, de la planète, hein, de notre planète. Voilà, on n'en a qu'une qui nous a donné toutes ses ressources. Et on comprend un peu mieux justement pourquoi vous positionnez en faveur du réchauffement, en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, justement.
Ouais, ouais. Il y a aussi le risque, mais ça se produit déjà, de conflits. Parce que les gens, s'ils ne peuvent plus rester dans leur pays, sont obligés de fuir. S'il n'y a plus d'eau, plus de nourriture, ça engendre des conflits, forcément. C'est un risque de guerre, de conflit très, très important. C'est dans ce sens-là aussi que c'est lié. Il y a des dérèglements climatiques qui amènent de tels bouleversements que... parce que ceux qui vont fuir, ils vont aller vouloir s'installer dans d'autres pays, qui ne vont pas... On voit toute la question des réfugiés, ce que ça génère, la question des réfugiés. Ils ne sont pas forcément bien accueillis. Là, ça va amplifier encore... Donc, d'où l'intérêt. Et c'est vrai que vous parliez de coopération. En fait, ça, ce sont des valeurs de culture de paix qu'il faut développer et qui sont de toute façon, quand ça se passe, quand il y a des grandes solidarités, c'est toujours facteur de progrès. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est vers là qu'il faut aller, quoi.
Eh bien, merci. Je rappelle que je recevais Viviane Bichet, présidente du Mouvement de la Paix Orléans-Loiret, accompagnée de Claudine Amary, secrétaire et co-secrétaire au niveau national du Mouvement de la Paix, qui tiendra son congrès les 18, 19 et 20 novembre, c'est bien ça, à Tours. Le congrès aura lieu à Tours. On peut avoir plus d'informations, bien évidemment, j'imagine, en tapant Mouvement de la Paix.
Nous, on n'a pas de site au niveau...
Mais au niveau national, en tout cas.
Au niveau national, oui, c'est... on tape le mouvementdelapaix.fr et puis on tombe sur la page. Autrement, ici, nous, on a une adresse mail qui est 45@mvtpaix.fr. www.lucal.org. Voilà, pour l'instant, les gens nous écrivent. Et puis, en fait, à partir de là, on peut donner notre numéro de téléphone et puis, enfin, puis nous contacter. Quoi, en fait,
d'accord, voilà. Pour, par exemple, mettre en place un projet avec des élèves dans une école.
Ça a déjà été fait.
Hein, il faut aussi trouver un interlocuteur. Parce que le problème, c'est qu'il faut avoir ou des enseignants qui soient partie prenante ou des directeurs d'école.
Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.